l'info concentrée ce matin, tout entier concentré sur l'Allemagne suite à ces élections législatives dont les résultats quasiment définitifs vont nous arriver sans doute ce matin, parce qu'à Berlin, semble-t-il, les votes ont duré plus longtemps à cause d'une histoire de marathon, si j'ai bien compris ce que racontait tout à l'heure Hélène Kohl, la correspondante d'Europe 1 à Berlin, qui est avec nous ce matin, de même que Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et professeur à Sciences Po. Patrick Martin-Jeunier, justement, alors, on évoquait la difficulté de la constitution de ces coalitions. Il est vrai aussi qu'en interne, dans les partis, tout le monde ne soutient pas forcément les mêmes scénarios.
Voilà, ça tiraille de tous les côtés. Ce matin, je vois l'aile conservatrice de la CDU qui demande à Armin Laschet et même Markus Söder de la Bavière de se retirer de toute responsabilité des partis politiques.
C'est la faute des chefs. Voilà,
voilà, c'est la faute des chefs qui n'ont pas su mener une campagne électorale à la suite des gaffes et des bévues considérables commises par Armin Laschet, qui n'a pas su redresser la barre depuis cet été. Donc ça, c'est à droite. À gauche, il y a aussi des règlements de compte qui se préparent, parce que on parle d'une coalition éventuelle avec les libéraux, mais entre les libéraux et le SPD, il va falloir se mettre d'accord sur les impôts, sur les logements, sur toutes les difficultés sociales. Et à la gauche du Parti social-démocrate, on est plutôt contre une coalition avec les libéraux qui, comme vous savez, veulent désengager l'État et veulent diminuer l'endettement.
Un mot peut-être aussi de l'AfD, Alternative für Deutschland, ce parti qui est monté très fort depuis sa création, mais qui stagne aux alentours de 10%. Disons que la fièvre populiste est quand même très très tempérée en Allemagne. Malgré tout, il faut regarder sur la carte de l'Allemagne. Oui. Qu'est-ce qu'on peut entendre dire, Patrick Martin-Jeunier?
Écoutez, on a dit qu'on a contenu l'extrême droite, je veux bien l'entendre. Ils ont quand même 83 sièges ce matin au Bundestag, le Parlement allemand, et ils deviennent premier parti politique en Thuringe et en Saxe.
Donc c'est l'ex-Allemagne de l'Est.
En Thuringe, à Chemnitz, là, rappelez-vous, où il y a eu effectivement des meurtres racistes, etc. Donc il y a là effectivement un sujet d'inquiétude. L'AfD devient ce premier parti politique avec des votes directs, car je rappellerai que chaque électeur allemand vote deux fois pour un député de circonscription et pour une liste sur le plan national.
Hélène Kohl, justement, qu'est-ce qu'on dit ce matin du score de l'AfD qui n'entre absolument pas dans les calculs du SPD et de la CDU pour la formation d'une coalition, sont un peu bannis, marginalisés.
Oui, absolument. Enfin, c'est un parti qui a complètement joué la carte, pour le coup, à l'inverse du Rassemblement National. La dédiabolisation, ils ne l'ont pas faite du tout. Au contraire, puisqu'ils ont perdu un petit peu leur terrain du dossier de l'immigration, qui n'a pas été un thème important dans cette campagne. Pour se faire entendre, ils ont vraiment durci leur discours. Et c'est assez intéressant de voir que c'est là où l'AfD endosse en fait un discours totalement néo-nazi, clairement, puisque en Thuringe, l'AfD est en tête et le chef de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, est considéré officiellement par la justice allemande comme étant un fasciste. Ses propos sont fascistes.
C'est quoi un discours néo-nazi du point de vue allemand, Hélène Kohl, aujourd'hui?
C'est par exemple des appels au meurtre pendant la campagne. Ce sont des partis qui finalement sont heureux quand un élu de la CDU est abattu en janvier 2019 par un militant d'extrême droite. Donc on dépasse le champ démocratique avec l'AfD dans ces régions-là. Clairement. Chemnitz est en Saxe, pas en Thuringe. En Saxe, on a Tino Chrupalla qui menait cette l'AfD dans ces régions-là, qui veut qu'on arrête de parler du Troisième Reich en cours à l'école, par exemple. Donc on n'est clairement plus dans un discours de ce que les Allemands appellent ça en fiche. Voilà, on n'est plus en train de discuter entre démocrates. On est sur une ligne extrêmement dure en revendiquant un seul Führer pour l'Allemagne, par exemple. Donc voilà, on est sur une ligne très dure d'un autoritarisme national. Nationaliste, identitaire, pan-germaniste.
C'est assez incroyable d'entendre ça, effectivement. Patrick Martin-Jeunier, il faudra qu'on en reparle, je pense, mais lors d'une autre émission, parce que nous n'aurons pas le temps, mais j'aimerais qu'on aborde maintenant la question de l'Europe par rapport à cette élection. Tout à l'heure, Vincent Hervouet, à 7h12, soulignait avec un poil d'ironie qu'il y a deux élections en fait étrangères qui passionnent les Français, ou en tout cas les médias français, c'est l'élection américaine et les élections en Allemagne, ce qui est vrai. Comment aujourd'hui regarde-t-on les choses depuis la France? Quels enjeux ces élections recouvrent-elles pour notre pays, selon vous, Patrick Martin-Jeunier?
Écoutez, au niveau de l'État, on regarde, du gouvernement et du président de la République, on regarde avec une grande attention, voire une certaine inquiétude de ce qui se passe en Allemagne, parce que naturellement, s'ils vont présider le G7, nous, Emmanuel Macron va présider donc l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022, et on attend de ce futur gouvernement, futur chancelier, eh bien qu'il soit capable de diriger et de faire des propositions ambitieuses sur l'Europe. Vous savez, il y a la traditionnelle coopération franco-allemande, c'est bien, on n'aime pas parler de couple en Allemagne, mais l'amitié, la coopération doit aller plus loin. Que va-t-on faire pour une future intégration? Il y aura les résultats de la Convention citoyenne sur l'Europe également. Et enfin, la coopération militaire, la défense européenne.
Le serpent de mer.
Serpent de mer, mais avec surtout une mutualisation des armements et le futur avion de combat européen. Est-ce que ça, il y aura des difficultés ou pas? En tout cas, on sait que la coopération est très importante, mais le président de la République avait reçu à la fois Armin Laschet et Olaf Scholz à Paris. Annalena Baerbock avait refusé de venir à l'Élysée.
Donc c'est la leader des Verts.
Et elle a dit que son premier voyage ne serait pas à Paris, mais à Bruxelles. Donc on voit bien qu'il peut y avoir quelques divergences.
Oui.
Et aussi, il y a une différence de gouvernance entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que si, chez nous, le président de la République est la personne très puissante, eh bien, en Allemagne, ce sera le gouvernement de coalition et à trois. Et lorsqu'on fait un pas dans la progression européenne, il faut négocier au sein de la coalition. Donc c'est bien plus collégial. Donc ça risque d'être un peu plus difficile. Le temps que ce nouvel gouvernement soit opérationnel, eh bien, effectivement, ça peut un peu inquiéter et ralentir le rythme de l'Europe.
Alors, on a d'autres sujets, évidemment, au niveau européen qui nous intéressent au premier degré. C'est la question du pacte de stabilité. Faut-il le rétablir à partir du mois de mars? Et l'on sait que les Allemands, eux aussi, ont des débats à ce sujet. Il y a la ligne face à la Turquie également, la ligne face aux États-Unis, face à la Chine. Hélène Kohl, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui se dessinerait comme posture des différents leaders potentiels de cette future coalition? Qu'est-ce que l'on dit, par exemple, sur ce sujet du retour au pacte de stabilité?
Ben, il faudra voir effectivement ce qu'il y a dans le contrat de coalition. C'est très difficile de le dire. Je vous donne un exemple. En 2005, il y avait eu la campagne avait été articulée autour de la question de l'augmentation de la TVA. Les uns disaient qu'il faut rester à 16, les autres à 19, à 18. Et puis finalement, on est arrivé à une augmentation à 20%. Donc en fait, on peut absolument rien dire. C'est clair qu'un chancelier Scholz aurait peut-être un petit peu plus tendance à être souple sur ses critères de stabilité européens. Cela dit, il était ministre des Finances d'Angela Merkel jusqu'à présent et il l'a redit dernièrement. Je trouve ça très bien qu'il y ait des règles communes et qu'il faut aujourd'hui les défendre. Donc, affaire à suivre, effectivement, il y a cette question des impôts et de l'endettement qui est très importante pour les libéraux. A priori, ils seront au gouvernement. Mais il y a quand même des points d'entente qui se dégagent entre les Verts et les libéraux qu'on dit inconciliables. La question notamment des investissements, et notamment des investissements numériques. On pourrait, par exemple, les sortir de la question du budget global. C'est-à-dire, on pourrait s'endetter pour faire des investissements. Donc là, c'est effectivement une piste intéressante à voir. Et puis de toute façon, les libéraux et les verts s'entendent sur la nécessité de décarboner archi vite l'outil industriel allemand. Donc finalement, les choses vont peut-être se décider un peu plus vite que prévu.
Bon, il nous faudra la journée pour passer en vue tous les enjeux communs que nous avons avec nos voisins allemands. Mais l'émission est terminée, donc on en reparlera un autre jour. Merci Patrick Martin-Jeunier d'être venu nous voir, spécialiste des questions européennes et professeur à Sciences Po. Et Hélène Kohl, la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Merci Hélène.